Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. C'est un visage et un prénom qui est désormais connu de tous les foyers français. Et en ce week-end de Pâques, les révélations autour de la disparition du petit Émile ont saisi une nouvelle fois le pays. Son crâne a été retrouvé par une randonneuse hier matin à moins de 2 km du jardin de ses grands-parents où il avait disparu, dans une zone pourtant fouillée à de nombreuses reprises par les enquêteurs. Une analyse de ce fragment de corps est en cours, mais l'enquête est repartie de plus belle pour retrouver le reste des ossements. Une centaine de gendarmes sont de retour sur place à la recherche donc du reste, des vêtements, éventuellement de dossiers, d'éléments qui pourraient permettre d'en savoir un peu plus, en tout cas de tout ce qui pourrait permettre d'éclaircir les conditions de la mort du petit Émile. Deux jours avant cette découverte, une mise en situation avait eu lieu dans le village avec toute la famille et les témoins. Émile, et maintenant, quelles sont les pistes? C'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Je cite votre livre, Au bout de l'enquête, publié aux éditions First. Damien Delsaigne est avec nous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice au Parisien. Je cite votre dernier article. Qu'est-il arrivé à Émile? Les questions qui se posent après l'annonce de la mort du petit garçon. Avec nous ce soir, Marilyn Baranès. Vous êtes docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Vous êtes spécialiste du psychotraumatisme et experte judiciaire. Avec nous ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique et conseiller de la rédaction de Franc-Tireur. Enfin, nous sommes en direct avec Grégory Leclerc, vous êtes grand reporter pour Nice Matin et Var Matin, et vous couvrez l'affaire Émile. Vous êtes avec nous depuis Le Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va rester avec vous, Grégory Leclerc, puisque vous venez d'assister à une conférence de presse de la gendarmerie. Qu'a-t-on appris ?
Alors en fait, ce sont les techniciens de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, qui sont arrivés ce matin sur le terrain avec tout leur équipement scientifique. Ils ont donc organisé une opération pour montrer comment ils travaillaient avec le drone. Et on vient d'apprendre à cette occasion, mais c'est guère une surprise, que le terrain sur lequel ils travaillent est particulièrement accidenté. On savait déjà que c'était très boisé, très vallonné, mais là, il a bien précisé très accidenté. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce lieu-là, on est à 1300 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence, c'est un cul-de-sac, et il y a des dénivelés de 50 mètres en positif ou en négatif d'un coup, dans la zone dont on estime qu'ils sont en train de, sur laquelle on estime qu'ils sont en train de faire des recherches. Elle se situe à peu près à 1 km, 1,5 km du village du Haut-Vernay.
On va peut-être voir la carte hein, de l'endroit où le crâne d'Émile a été retrouvé. Damien Delsaigne, on peut peut-être faire le film ensemble. C'est une randonneuse qui a retrouvé le crâne d'Émile.
Oui, une promeneuse hein, qui se balade sur un sentier samedi midi et qui aperçoit de manière assez flagrante ce qu'elle distingue tout de suite comme un morceau de squelette et comme un crâne qui est vraiment en bordure de chemin. Elle n'a pas du tout été marcher à côté du chemin et donc elle a choisi elle de prendre ce crâne et ses dents pour les amener elle-même, les apporter elle-même à la gendarmerie. Et après, ben, y a tout un processus qui s'est mis en place d'urgence, c'est-à-dire que contrairement à d'autres affaires, là on a fait très vite, on a pris un hélicoptère, on a emmené ce crâne sous scellé jusqu'à Pontoise dans le Val d'Oise, jusqu'à l'Institut de recherche de la gendarmerie pour faire une comparaison ADN rapide puisque les enquêteurs avaient déjà l'ADN de Émile, faire une comparaison entre le crâne et ce qu'on pouvait récupérer sur les dents et l'ADN, constater que ça a matché. Et il y a aussi eu des examens qui ont été faits sur le crâne assez rapidement, comme un scanner, pour essayer de déceler tout de suite des choses un peu évidentes. Et une fois que la confirmation a été faite dans la nuit de samedi à dimanche, il a été décidé, vers 9h, 9h30 du matin, de prévenir la famille, ce qui était la moindre des choses. Les gendarmes voulaient vraiment éviter que ça fuite avant, parce qu'ils avaient pour mission d'alerter la famille en premier, c'est ce qu'ils ont fait. Et après, il y a eu ce communiqué du procureur dimanche en fin de matinée.
Cette question qui nous est posée, cette découverte permettra-t-elle de déterminer la date du décès? Si oui, avec quelle précision? Est-ce que les éléments qui sont... Non.
Pas encore. Bon. En fait, il y a trois questions qui vont être posées. C'est où, quand, comment? Où, parce qu'on n'est pas sûr que ça soit le lieu du décès. C'est le lieu où on a retrouvé seul le crâne et des dents. Il manque toute une partie du squelette pour des tas de raisons qui vont...
On va en parler, bien sûr.
Tout à l'heure. Quand? C'est l'analyse des éléments, et il se trouve qu'il y a assez peu d'éléments disponibles sur le crâne seul, un peu plus sur les dents, ça a permis l'ADN, ça permet aussi des recherches qui vont pouvoir fixer le... C'était plutôt au moment où il a disparu ou c'était entre le moment où il a disparu et le moment où on a retrouvé... Voilà, ça ne va pas être d'une précision comme dans les films. Et puis comment ? Et alors le comment, c'est est-ce qu'il y a une trace
sur
le crâne ? Est-ce que cette trace ressemble plus à un caillou ou à un objet contondant, c'est-à-dire plutôt carré ? Est-ce que c'est une chute ou est-ce que c'est une... le fait d'avoir été frappé ? Et ça, c'est les éléments qui ne pourront être confirmés qu'avec d'autres restes de, ce petit enfant qui vont avancer. Mais pour l'instant... Le crâne seul ne permet pas d'avancer au-delà de l'ADN et d'une vague possibilité de réduire la temporisation entre c'était au début ou c'était beaucoup plus tard.
Marilyn Baranès, ce qui est sûr, c'est que ça met un terme, j'allais dire, à l'incertitude qui était celle des parents qui vont pouvoir commencer leur deuil. C'est-à-dire que jusqu'à hier ou avant-hier, ils avaient... ils étaient dans une forme d'incertitude, savoir où était passé Émile depuis 9 mois, après 9 mois de recherche.
Oui, bon, ils étaient dans une grande inquiétude, évidemment. Alors, dans cette affaire, si je puis dire, ce traumatisme, on a deux temps. On a un premier temps qui est le temps vraiment de la disparition, hein, la disparition de l'enfant. Donc là, la définition de l'angoisse, c'est le vide, et on était dans le vide. C'est-à-dire, on ne savait pas, il était vivant, il était mort, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ça, c'est un premier temps, donc c'est un premier temps traumatique, ce vide, et on a répondu à ce vide. En revanche, en ce qui concerne le deuil, c'est beaucoup plus compliqué parce que pour faire un deuil, ce qu'on appelle faire un deuil, c'est-à-dire avoir une représentation de fin. Or là, on a une partie du corps, pour l'instant à peine un crâne et donc un ossement. Hein. Et donc, tant qu'on ne peut pas faire de sépulture, la question du deuil est extrêmement complexe. Sans compter que la disparition de l'enfant a généré, a créé, psychiquement parlant, ce qu'on appelle un traumatisme, c'est-à-dire la rencontre du réel avec la mort. C'est ça le traumatisme. C'est quand nous rencontrons la mort sans être mort et nous avons une perception de cette mort qui est beaucoup plus réelle. Et ça crée, psychiquement parlant, dans notre tête, ce qu'on appelle un gel psychique. Non. Nous ne pouvons plus avoir des émotions, réfléchir, nous sommes un peu sidérés. C'est la fameuse sidération.
On va revenir sur la famille qui s'est extrêmement protégée dans toute cette période-là. Certaines familles, et on le sait, on en parle souvent sur ce plateau, choisissent de parler aux médias. Là, ils se sont vraiment mis de côté. Ils ont demandé d'ailleurs, depuis ces dernières heures, aux journalistes de les laisser tranquilles, précisant qu'il n'y aurait pas d'autres communications de leur part. Une réaction de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a dit toute sa tristesse pour ce petit garçon, ce petit ange, dit-il, je suis père de famille, j'ai des enfants qui ont à peu près le même âge, et il a remercié la gendarmerie. Il y a cette question qui nous est posée ce soir et qu'on s'est peut-être tous posée. Quand une affaire est très médiatisée, la police alloue-t-elle plus de moyens aux enquêteurs ? Il y a de nouveau énormément de moyens sur place.
Oui, incontestablement. Par exemple, l'analyse ADN telle qu'elle a été réalisée en des temps records, un hélicoptère qui va de Digne jusqu'à Lyon, si je ne me trompe pas, puis de Lyon jusqu'à Paris, on n'aurait pas déployé cela pour une affaire qui n'aurait pas de résonance médiatique. Ce n'est pas du favoritisme, c'est simplement la prise en compte que l'émoi national peut aussi créer, au-delà du traumatisme, qui est parfois aussi collectif, un trouble à l'ordre public. On le sait, on l'a vu en juillet, des gens se précipitent, des curieux sur les lieux, on voit sur les réseaux sociaux les hypothèses les plus farfelues surgir. Aller vite, c'est aussi lutter contre cela. Et puis dans le témoignage de Gérald Darmanin, il y a aussi cette identification. Tout le monde. En juillet dernier, mon fils, ma fille, mon petit-fils, ma petite-fille, ça aurait pu leur arriver. C'est la hantise absolue, la disparition d'un enfant non élucidé. Et donc, Émile a rejoint cette galaxie des faits divers dont tout le monde parle. Par ailleurs, il y a eu, au-delà de l'émotion partagée par la communauté nationale, les spéculations. Quel est ce village étrange au bout du monde ? Quelle est cette famille étrange à la spiritualité si particulière ? Et donc, les spéculations ont commencé. Et tout le monde, innocemment au bistrot de la Poste, ou bien moins innocemment sur les réseaux sociaux, y allait de son hypothèse.
Avec des hypothèses désormais et des rumeurs autour de la randonneuse.
Oui, aujourd'hui, bien sûr, cette femme, pourquoi a-t-elle pris le crâne? Que faisait-elle ouais. par là? Alors évidemment, les gens se...
Ça commençait tous poser la question, de bien se sûr, dire est-ce, comment est-ce qu'on aurait réagi.
C'est pas elle qui est allée dans un endroit inaccessible pour trouver quelque chose qu'elle savait être là. C'est visiblement le crâne qui était arrivé tout près du chemin, depuis juillet, ou depuis la fonte des neiges, ou entre-temps, mis par quelqu'un, ou simplement ayant dévalé la pente, ou ayant été apporté par un animal. L'enquête le dira peut-être. Mais évidemment, le fait qu'il y ait un interlocuteur nouveau, cette randonneuse, et qu'elle ait pris... Le risque, ouais. en tout cas la décision de prendre ce crâne et de l'apporter aux gendarmes, évidemment, ça relance les spéculations.
En fait, la seule question à laquelle on répond avec la découverte de ce crâne, c'est le décès d'Émile.
Oui, ça crée un moment, comme ceci a été très bien dit, de la fin du doute et simplement, c'est le début des soupçons.
C'est ça.
On a fini le doute, enlèvement, disparition, assassinat, meurtre, mais pas de cadavre. Alors, ce n'est pas le seul cas, hein. Il se trouve qu'il y a énormément d'affaires où il n'y a pas de cadavre et où il y a pourtant une décision judiciaire qui est prise sur la base d'hypothèses structurées. Vous prenez par exemple la disparition de l'héritière du casino Ruhl, où on a condamné à plusieurs
Agnès
reprises
Leroux.
Agnès Leroux, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Mais là, on était dans le doute le plus profond. Là, au moins, ça met fin à cette hypothèse-là. Le petit Émile Soleil est décédé. Et donc, maintenant, on est dans la phase de quoi est-il mort?
Alors,
où est-il mort? Et comment est-il mort?
Et pourquoi est-ce que l'on retrouve son crâne, oui, seulement son crâne?
Alors, on a une affaire qui est emblématique de cette discussion. On a parlé avec Jacques Dallest récemment, qui est l'homme qui a lancé la recherche des cold cases, le fait de les reprendre, etc., qui est un procureur général, qui est l'affaire Lucas Tronche. Lucas Tronche, il a fallu... C'est un grand garçon de 15-16 ans, qui tombe dans une crevasse, et pendant 6 ans et demi, on ne trouve pas son corps, alors même que tout le monde y est passé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, parce qu'il faut se rendre compte que dans les endroits très escarpés, très compliqués, eh bien, les mouvements du terrain... la sécheresse, puis les inondations, les extrêmes climatiques, la vie de la terre, qui est un élément très important pour les enquêtes criminalistiques, la terre parle autant quasiment que les corps, sont des éléments qui bouleversent les choses. Les animaux aussi.
Aussi.
Et ça n'exclut pas l'hypothèse humaine, mais ça la remet à sa place. Et dans les travaux qui sont en cours sur à peu près désormais un rayon qu'on va dire d'environ, une circonférence d'environ 3 km, et je tiens à saluer vraiment l'exceptionnel travail des collègues du Parisien, notamment en cartographie, en détail, en précision. C'est assez rare d'avoir des journalistes qui font du journalisme et pas seulement du spectacle, donc je le dis très honnêtement.
Ouais. C'est une carte qui nous a inspiré aussi et qu'on a reprise et que vous voyez
là. Qui a surtout un intérêt. On disait tout à l'heure, qu'est-ce que ça apporte, la découverte du corps? Ça apporte quand même une localisation. C'est-à-dire que si on avait retrouvé un squelette à 50 km du Vernet, c'était pas la même histoire. Si on l'avait retrouvé dans le sous-sol d'une maison, c'était pas la même histoire. Là, on a quand même un début de commencement d'explication. Voilà. Il est dans un secteur où tout est possible, mais où l'accident est...
Montagneux, escarpé, avec une forte végétation. On va y revenir parce que, effectivement, cette découverte soulève de nombreuses questions, de nombreuses hypothèses. En tout cas, il était 9h30 hier, lorsque les parents d'Émile ont reçu un appel des enquêteurs alors qu'ils se rendaient à la messe de Pâques. Après 167 jours, le crâne donc du petit Émile, 2 ans, a été retrouvé par une randonneuse dans une zone pourtant passée au peigne fin par les enquêteurs et les brigades cynophiles pendant des semaines, c'était l'été dernier, une zone à moins de 2 km du jardin des grands-parents d'Émile, Mathieu Lignot et Erwan Ilion.
Un village coupé du monde à nouveau. Les gendarmes interdisent l'accès au Haut-Vernay pour une semaine. C'est là que samedi, une randonneuse découvre des ossements. Ils sont analysés en urgence. Il s'agit du crâne du petit Émile, disparu l'été dernier. Depuis hier, des gendarmes spécialisés reprennent les investigations sur le terrain.
Travailler dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, ce sont des équipes cynophiles de recherche de restes humains pour pouvoir apporter un complément aux enquêteurs.
L'enfant a disparu le 8 juillet. Il était en vacances chez ses grands-parents. Des moyens gigantesques sont déployés pour le retrouver. L'émotion est immense. Et des centaines de volontaires viennent participer à des battues.
J'ai 6 enfants, donc ça me touche forcément. Et du coup, je cherche.
Ça a été ratissé en long, en large, et on repasse plusieurs fois sur le même passage. Donc on n'a rien trouvé.
Finalement, les ossements de l'enfant ont été retrouvés à 2 km du lieu de sa disparition. Maintenant, l'objectif des enquêteurs est de retrouver l'ensemble du corps du petit Émile. Tenter de percer le mystère de sa mort. A-t-il été enlevé par une personne, attaqué par un animal? S'est-il perdu? Ses ossements ont-ils été déplacés après sa mort? Les enquêteurs avaient déjà ratissé la zone.
J'avais été fouillé par les bénévoles, par les gendarmes, par les hélicoptères, par les drones, par de la gendarmerie, tout avait été vu. C'est très éloigné de là où il est, du dernier lieu où on a pu constater sa présence. Le mystère se déplace, quoi, mais on est toujours dans le mystère.
Les parents de l'enfant, très discrets, ont réagi à la mort de leur fils de 2 ans et demi dans un communiqué.
Cette nouvelle déchirante était redoutée. L'heure est au deuil, au recueillement et à la prière.
La famille d'Émile est très pieuse, catholique traditionnaliste. Elle prie régulièrement dans cette chapelle. Il y a 10 jours, le Canard enchaîné révèle que le grand-père du garçon est cité dans une affaire judiciaire, vieille de 30 ans. Éducateur dans cette communauté religieuse du Nord, il est accusé de viol et de violence sur mineurs de moins de 15 ans. En 2018, Philippe V est placé sous statut de témoin assisté, mais pas mis en examen. Il répond à ces accusations.
On a l'habitude de ces logorées immondes. Ne vous inquiétez pas pour nous. Vous savez, pour moi, l'essentiel, c'est mon petit-fils.
Pour les enquêteurs, il n'y a pas de lien entre cette affaire et la disparition d'Émile. Les investigations se poursuivent. Jeudi dernier, 17 habitants, dont la famille, sont convoqués par la justice. Que faisait-il, où était-il quand le garçon a disparu? Ils doivent le montrer aux gendarmes.
L'objectif de la mise en situation, c'est de retracer de manière chronologique la soirée du 8 juillet dernier et de pouvoir confirmer ou infirmer les éléments qu'ils ont pu recueillir pendant leur enquête lors des 9 derniers mois.
Atmosphère pesante pour les 130 habitants du village.
Je promène beaucoup, quoi. Et donc, j'angoisse un peu. J'angoisse un peu. On ne sait pas ce qui a pu se passer. Vous pouvez tomber sur quelque chose sur lequel vous ne devriez pas tomber, quoi.
Personne ne se doute alors que les premiers ossements du petit Émile seront retrouvés 2 jours plus tard.
Et cette question qui nous est posée ce soir par Emmanuel à Paris. La femme qui a rapporté le crâne aux autorités est-elle considérée comme suspecte, Damien Delceni?
Suspecte, non. C'est un témoin qui rapporte une pièce importante d'un dossier. Suspecte, il n'y a pas de raison particulière. Bon, elle a été interrogée parce que c'est la logique des choses, mais en l'état, il n'y a aucune suspicion sur elle, non.
Grégory Leclerc, vous êtes avec nous ce soir. Que vont faire maintenant les enquêteurs? Qu'est-ce qui est prévu? Je le disais, il y a des effectifs qui sont naturellement de retour sur place. Qu'en savez-vous? Je crois qu'il y a des drones qui ont été déployés pour surveiller la zone. Est-ce qu'il y a encore des brigades cynophiles? Qu'est-ce qui se passe sur place? Et on le sait, hein, depuis le début de cette affaire, vous-même, en tant que journaliste, vous n'avez pas accès au Vernet puisque la zone est complètement isolée.
Non, tout à fait. On est cantonné à peu près 2 km du Haut-Vernet, donc encore un peu plus du lieu de la découverte des ossements. Le travail d'enquête a considérablement changé depuis la découverte des ossements, parce que maintenant, c'est sur une zone qu'on travaille. L'IRCGN est en train de cartographier en 3 dimensions, c'est-à-dire de reconstituer complètement la zone de découverte des ossements avec les indices, c'est ce qui nous a été indiqué tout à l'heure, qui sont modélisés, ce qui permettra aux enquêteurs, une fois de retour dans leur bureau, de se replonger dans la scène et de revisualiser s'ils se posent des questions. Ça, c'est pour l'enquête technologique, on va dire. Il y a également des chiens qui ont été déployés ce matin, qui sont des chiens malinois spécialisés en recherche de corps. Donc, ce sont des chiens qui sont dressés pour ça. Et puis, il y a évidemment toute la cellule Émile qui est sur le terrain et qui travaille autour de ces enquêteurs spécialisés. Il y a à peu près une trentaine d'enquêteurs qui sont en ce moment sur la zone de découverte des ossements. Mmh.
Ça va accélérer nécessairement le fait d'avoir resserré ce que vous disiez tout à l'heure avec la carte qu'on a montré. On sait désormais où les choses se sont passées. Ça va aider naturellement les enquêteurs.
D'abord, cette enquête, elle a commencé par étaler les recherches. Ouais. Les enquêteurs ont visualisé des milliers, des dizaines de milliers d'images de tous les péages, de tous les véhicules qui étaient passés devant une caméra de vidéosurveillance. Donc ça prend un temps infini et des moyens considérables. Là, ça permet resserrer et surtout de concentrer l'enquête, d'abord sur un territoire clairement identifié et délimité, qui montre à la fois que ça s'est passé près, ça s'est probablement passé il y a longtemps et probablement au début, et que l'élément essentiel aujourd'hui, il est la recherche des autres éléments du squelette, peut-être de ce qui reste de vêtements, essentiellement avec une fixation, on en parlait tout à l'heure, sur les chaussures qui sont l'élément le plus résistant au temps, ce sont des chaussures de randonnée, hein, ce n'est pas des sandalettes. Et donc ça, c'est l'élément qui va construire, au-delà de la mise en situation de la scène de découverte du crâne, qui n'est peut-être pas la scène dite de crime, même s'il n'y a pas crime, donc l'endroit où le jeune Émile serait décédé. Et puis avec tous ces éléments-là vont commencer des recherches très particulières sur des marques sur les os, des éléments discordants qui montreraient qu'il y a eu une bagarre, que c'est une chute, que c'est l'épuisement. Bref, toute une série d'hypothèses qui vont commencer à être ouvertes et fermées de manière très systématique par les outils de l'IRCGN. Donc oui, la concentration des moyens va permettre d'accélérer le processus. Alors déjà, la technologie fait qu'on n'attend pas 3 semaines pour avoir un retour d'ADN ou 3 mois, comme il y a une vingtaine d'années. Donc même sans l'hélicoptère, on n'aurait peut-être pas mis quelques heures, mais on n'aurait pas mis quelques jours non plus. Donc il se produit désormais une accélération, mais surtout une concentration sur un territoire défini. Et tout le monde attend l'hypothèse la plus probable, c'est la découverte prochaine.
Vous pensez,
D'autres morceaux du corps éventuellement des chaussures.
Aurait-il pu se rendre dans cette zone escarpée, boisée, avec une forte végétation? Il a 2 ans et demi. Il échappe à la vigilance de ses grands-parents. C'est ça la question qui reste posée. Crime ou accident? On n'a pas la réponse naturellement avec cette découverte.
Non, la seule réponse.
L'endroit où on a trouvé le corps. La seule
réponse qu'on a eue hier, c'est que l'endroit. Alors évidemment, encore une fois, on ne sait pas si c'est l'endroit où il est mort, mais en tout cas, l'endroit où on découvre le crâne, selon des sources, tiers multiples, est un endroit compatible avec la marche d'un enfant de 2 ans et demi. C'est-à-dire, il peut, dans l'absolu, avoir été de lui-même à cet endroit-là. Alors après, la différence, c'est que quand on questionne les gens du village, qui connaissent bien l'endroit...
Ils disent non.
Ils disent le contraire. Ils disent, je vois pas ce qu'il fait là. Mais après, encore une fois, tout ça, c'est des hypothèses, parce que s'il est tombé de plus haut et que, finalement, le corps s'est désintégré et a fini par en quelque sorte, ruisseler avec les éléments climatologiques, tout ça ne voit rien, en fait. Donc, la vraie priorité du moment, c'est de retrouver le reste du squelette, parce qu'il donnera une indication définitive sur la distance qu'il y a, d'ailleurs, entre ce premier élément et les autres. Et si on retrouve l'essentiel du squelette au même endroit, on pourra être un peu plus affirmatif. Là, on est obligé, encore une fois, de n'avoir que des hypothèses, de regarder un petit peu l'arc kilométrique. Les gendarmes ont fait la distance à pied entre l'endroit où il est vu pour la dernière fois dans le hameau et l'endroit où on trouve le crâne. Ils estiment qu'un adulte met entre 3 quarts d'heure et 1 heure pour faire ce chemin-là. On peut estimer qu'un enfant de 2 ans et demi, même s'il marche bien, il va mettre quand même un peu plus longtemps. Ça voudrait dire qu'il a quand même marché très longtemps pour aller à cet endroit-là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça ne l'est pas? Tout ça, ce sont des questions qui se posent. Mais encore une fois, si on en reste au crâne et aux dents à cet endroit-là, il va forcément manquer des pièces au puzzle et beaucoup de pièces.
Marine.
Oui, je voulais reprendre ce que vous disiez. C'était très juste sur la question de la psychose au départ, hein, sur le questionnement. On ne savait pas où était cet enfant. Et donc, c'était une question nationale. Et on entendait partout, dans les bars, chez les coiffeurs, où vous voulez, on entendait, mais comment un petit enfant de 2 ans et demi peut échapper à la vigilance de ses parents? Personne ne l'a vu. Si les gens l'ont croisé, personne n'a été le voir pour lui dire « t'es tout seul, où vas-tu ?» etc. Et donc, ça a commencé comme ça. Et là, aujourd'hui, on est effectivement dans ce village. Hein, je crois que c'est 129 habitants, donc c'est tout petit. Et donc, on retrouve un crâne, sachant que les gens connaissent bien leur village, connaissent bien le terrain. Il y a eu un déploiement exceptionnel dans cette affaire pour de la gendarmerie, des chiens, des drones, des hélicoptères. Enfin, c'était
des bénévoles aussi, de nombreux bénévoles.
Beaucoup de bénévoles. Et alors, les gens effectivement disent, ce n'est pas possible que cet enfant ait pu tout seul marcher effectivement. Enfin, il faut qu'il marche longtemps, il faut qu'il se perde. Et là, on est aujourd'hui dans une psychose du village avec ce questionnement où on retrouve un crâne, où ils sont plus ou moins tous sûrs que ça ne peut pas être un accident. Ouais. En tout cas, c'est les bruits qui courent. Donc ouais. Ça, c'est l'enquête, bien sûr, qui répondra à ça. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle une psychose, c'est-à-dire des rumeurs et où les langues vont commencer à se délier.
Vous pensez qu'il peut, ça peut, le fait qu'on ait trouvé un crâne?
Bah, je pense que l'association entre deux jours avant qu'on ait trouvé un crâne, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la reconstitution des faits. Et cette reconstitution a...
La mise en situation, excusez-moi.
C'est exactement ça, cette mise en situation de tous les gens, tous les protagonistes qui étaient là le jour de l'enlèvement. Et deux jours après, on retrouve ce crâne.
Non, mais ça, on l'a beaucoup lu sur les réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure avec Christophe Barbier. Le fait que ça se produise deux jours après la mise en situation, on rappelle que c'était tous les témoins, tous les membres de la famille qui étaient sur le site. Hein.
Deux jours après la mise en situation, donc à un moment où on réveille l'affaire, où, ouais. Comme on dit avec une expression, les policiers donnent l'impression de donner un coup de pied dans la fourmilière. Quelques jours après l'article qu'on avait vu dans le Canard enchaîné sur le grand-père, qui ouvrait aussi une nouvelle ligne de suspicion, et puis la Semaine Sainte. Nous avons affaire à une famille très chrétienne, qui d'ailleurs a réservé sa seule interview au magazine Famille Chrétienne, et voilà que le corps est retrouvé le samedi 5, elle l'apprend, la mort de leur enfant certifié en allant vers la messe de Pâques, c'est-à-dire où on célèbre la résurrection du Christ, plus son patronyme soleil, vous voyez, ouais. Tout ça fait soit ouais. Un bloc de coïncidence, parce que ça peut arriver, ouais. Soit évidemment pour ceux qui sont prompts à faire des spéculations, ouais. Toutes sortes d'indications qui relèvent plus de l'ésotérique que du scientifique.
Grégory Leclerc, on parlait des habitants qui disaient c'est impossible qu'il ait pu aller à pied tout seul à deux ans dans cette zone escarpée. Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues depuis le début où vous suivez cette enquête ?
Oui, c'est largement partagé dans le village. Pour les gens qui connaissent le terrain, tous disent que c'est trop éloigné, trop difficile pour un petit garçon de deux ans et demi. Mais bon, il faut faire attention à ce genre de vox populi parce que ça peut être aussi une opinion générale, mais dans les faits, un petit garçon...
Grégory Leclerc, pardonnez-moi, mais ce qu'on en sent aussi beaucoup, c'est combien de gendarmes, combien de brigades cynophiles sont passées dans cette zone-là? Elle avait été passée au peigne fin pendant des jours et des jours.
Elle a été passée au peigne fin et il y a eu aussi des travaux forestiers au mois de novembre. Il y a des bûcherons qui ont travaillé pour la commune, qui ont coupé du bois dans cette zone-là. C'est ce que nous a indiqué le maire. Et du coup, personne n'a rien relevé à ce moment-là.
Ouais. Alain Bauer?
Oui, enfin, il se trouve qu'on a des dizaines de cas d'enfants qui ont été retrouvés à des endroits invraisemblables, vivants, parce qu'ils avaient marché très loin, beaucoup plus que tout ce que tout le monde pouvait imaginer, et à des distances quasiment invraisemblables. L'affaire Lucas Tronche montre à quel point on peut faire 25 fois aller-retour, le drone, la capacité, le lidar, le sonar, bref, l'hélicoptère, et retrouver le corps 6 ans et demi plus tard à l'endroit où on est passé beaucoup. Donc, il faut être très prudent sur tout ce que tout le monde croit savoir sur la capacité d'un enfant de 2 ans à faire des choses. Parce que tous ceux qui ont perdu leur enfant en ne les regardant pas une demi-seconde et se traumatisant pendant des minutes, voire des heures avant de les retrouver à la caisse du supermarché ou à, de l'autre côté ou n'importe où quand on est justement dans l'espace rural, peuvent se rappeler que ça arrive de manière assez régulière. Heureusement, pas dans des conditions aussi tragique, mais il faut quand même modérer tous les spécialistes de la vie des enfants de 2 ans. Ils n'ont que assez peu de... Voilà. Deuxièmement, cet enfant, il connaissait l'espace, il était très à l'aise dans l'espace rural. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui l'ont vu n'ont pas été choqués de le voir avant qu'il disparaisse, parce que c'était quasiment une sorte d'habitude. Donc, tous ceux qui disent aujourd'hui que tout ça n'était pas possible et que, évidemment, ça ne peut pas se passer, sont aussi les mêmes qui expliquaient au tout début de cette affaire que, bon, bah, il était peut-être allé se balader, et ça n'avait choqué personne. Et d'ailleurs, personne n'était intervenu pour les quelques témoins qui l'ont vu vivant et relativement loin.
Mais vous n'êtes pas surpris par le fait que des enquêteurs, que des brigades cynophiles, que des bénévoles aient sillonné la zone pendant de longues semaines?
Non, parce que je ne pense pas que ça soit l'endroit où il est mort. Je pense que c'est l'endroit où on a retrouvé le crâne, et c'est ce que j'explique depuis le début. Il est impossible qu'on ait un crâne sans le reste du
corps. On le retrouvera, le reste du corps.
Et donc, on retrouvera le reste du corps, ce qui nous donnera une idée du lieu éventuel où le décès a eu lieu. Et comme le disait très bien Damien Lessy, du coup, ça va redéclencher une précision beaucoup plus grande sur comment, où et quand.
Je peux me faire l'écho de toutes les questions qu'on se pose. Quelqu'un qui vient déposer le corps, le crâne à cet endroit-là, juste le crâne, non ?
Dans quel intérêt ?
Oui.
Je ne sais pas, pour dire
qu'il est mort.
Question,
hein,
vous êtes posé la question aussi, rassurez-moi.
C'est la même question que tout le monde, hein, on n'est pas, pas martiens, mais on se dit que l'intérêt de le déposer... Parce que je vois bien, on est dans une société qui n'accepte plus les coïncidences.
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc, depuis 24 heures, on entend évidemment le « Ah bah tiens, c'est bizarre, deux jours après la remise en situation, bah tiens, c'est bizarre la Semaine Sainte, ah bah tiens, c'est bizarre tout ça. » Bon, ok, entendons ça, essayons de travailler là-dessus. Quel est l'intérêt pour quelqu'un qui, on va partir de cette hypothèse un peu folle. Quelqu'un qui détient le squelette chez lui du petit Émile et qui se dit, après la remise en situation, oulala, il faut que je me débarrasse de tout ça, qui n'a pas été retrouvé depuis 8 mois chez lui, hein, mais qui se dit, il faut que je m'en débarrasse.
La crainte d'une perquisition.
Mais pourquoi il va s'en débarrasser au bord d'un sentier, dans le périmètre justement où on est censé le chercher ?
La panique.
Oui, mais quelqu'un qui garde un corps chez lui pendant... Enfin, après, là, on est en train de partir dans des trucs...
On spécule. On l'a tous fait depuis 48 heures.
Non, mais on s'est posé cette question, mais naturellement, je trouve que ce n'est pas une hypothèse solide. Si, voilà, je ne pense pas que quelqu'un qui est assez pervers et tordu pour garder un squelette d'enfant chez lui qu'il a tué pendant des mois, se décide comme ça, dans ce moment-là, en plus, où il y a beaucoup de gendarmes, où il y a beaucoup de journalistes qui sont dans le secteur, à y déposer ça tranquillement au bord d'un champ, en se disant, bah, comme ça, je suis sûr qu'on va le trouver déjà, et... Je trouverais ça extrêmement surprenant. Mais bon.
Christophe Barbier.
Et si à l'inverse, l'enquête arrive à conclure à une mort accidentelle, il se perd, il erre dans la forêt, il fait une chute, il meurt. Et ensuite, le corps est déplacé par les inondations, par les animaux, par l'hiver, etc. On fera, au terme de tout cela, le procès de l'enquête. On se dira, les battues ont été mal organisées, il y a eu trop de moyens là où il ne fallait pas et pas assez là où il fallait. Et comme dans d'autres affaires célèbres, par exemple l'affaire Grégory, on dira, c'est dans les 24 premières heures, que la gendarmerie, la justice... On
n'a pas cherché au bon endroit.
Et ça a créé l'affaire Émile, parce que ça aurait été une tragédie si on avait retrouvé son corps le lendemain matin décédé accidentellement. C'est devenu une affaire et une affaire nationale et une psychose parce qu'on n'a pas retrouvé le corps et qu'il y a eu toutes ces spéculations pendant des mois et des mois.
Après, il faut juste toujours replacer les choses dans leur contexte. Émile, il disparaît. Émile, attention, on ne l'a pas dit depuis le début, il mesure moins d'un mètre. Hein. C'est un tout petit enfant, hein. C'est pas un corps... on peut passer à côté d'un corps qui fait 98 cm et ne pas le voir.
Ouais,
donc c'est un tout petit corps. On est en plein été, il y a plein de végétation, c'est un endroit très accidenté, on l'a dit. Et puis, quand il disparaît, c'est un samedi. Alors au début, on cherche avec les gens du coin, les gens du village, on fait monter quelques gendarmes, mais avant qu'on fasse venir des moyens, bah, il faut 24 heures, il faut 48 heures. Donc effectivement, on l'aurait retrouvé tout de suite, tout aurait été beaucoup plus simple. Moi, je pense aussi qu'il y a quelque part dans conscient collectif, la perception que maintenant, avec tous les moyens technologiques qu'on a, on doit toujours retrouver tout le monde et on doit toujours donner explication à tout. Et bien peut-être, et moi je le dis ce soir, peut-être qu'on ne saura jamais de quoi est mort cet enfant, qu'on n'aura en tout cas jamais une certitude absolue de savoir si c'est un accident ou un crime, parce que bah, malheureusement, on ne peut pas toujours tout savoir.
Mais parce qu'à l'époque, quand on traitait de la disparition d'Émile, y compris sur ce plateau, on disait, on regardait la même carte et on disait, après tous les moyens qui ont été déployés, il n'est pas dans cette zone-là.
C'était le maire même du Vernet qui disait, il avait même eu cette expression, s'il y avait une boule de pétanque, on l'aurait retrouvée dans le secteur.
Bon, c'est aussi parce qu'on avait dit ça à cette époque-là que les questions se posent aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Marilyn Barnès, sur on est dans une société qui n'accepte pas les coïncidences ?
On est dans une société qui a besoin de réponses rapides.
Ouais.
On tape sur n'importe quelle touche et on a besoin d'une réponse. C'est devenu très anxiogène de rester sans réponse. Et donc effectivement, je vous disais tout à l'heure, l'angoisse c'est le vide. Donc quand on n'a pas de réponse, on va commencer à spéculer, on va commencer à donner des hypothèses. La question de la psychose du village, c'est des situations, c'est des situations de croyance collective parce que ça nous permet d'être un peu moins anxieux d'attendre avec un peu plus de tempérance parce qu'on va spéculer. Mais je suis d'accord qu'on a du mal à accepter aujourd'hui en fait qu'on n'ait pas de réponse. Enfin, c'est ChatGPT. On pose une question et il faut la réponse tout de suite.
Peut-être qu'il s'agit d'une coïncidence aussi. Il y a trois disparitions qui ont inexpliquées qui ont eu lieu dans ce département des Alpes de Haute-Provence. Provence. C'est à moins de 100 km du Haut-Vernay, justement dans ce même département, que Mathieu a lui aussi disparu. C'était en 1983. Le jour de sa disparition, il quitte seul à vélo la ferme de ses parents, mais il ne donnera plus jamais de signe de vie. 40 ans plus tard, ses parents sont toujours à la recherche du moindre indice. Lasso Gelabert et Arnaud Fora les ont rencontrés avec Aubry Perrault.
Dans les Alpes de Haute-Provence, c'est un coin de France préservé. Traversé par la RN95, surnommée la route Napoléon. Celle-là même que Lise et Philippe Holbert scrutent, étudient depuis déjà 40 ans à la recherche du moindre indice.
À mon avis, c'est ici qu'il s'est passé quelque chose.
40 ans, la moitié d'une vie à tenter de comprendre où et comment a disparu leur fils.
Là, Mathieu a été vu par les marchands de fossiles. Un peu plus bas, il a plus été vu. Donc c'est dans ce secteur qu'il a disparu. Et je vois que cet endroit est le plus propice.
Le 25 juin 1983, Mathieu a 10 ans, une salopette et un grand vélo. Le petit garçon est autorisé pour la première fois à se rendre seul chez un ami, à quelques kilomètres de chez lui.
Je lui ai dit de faire très attention, bien sûr. Il a dit, oh, il s'est tourné, puis il m'a dit, oh, tu crois toujours qu'il va m'arriver quelque chose.
Le destin va tristement donner raison à Lise. Son fils n'est jamais arrivé chez leurs amis. Mathieu a disparu. Les enquêteurs vont d'abord privilégier la piste familiale.
Ils ont plutôt mis la focale sur une fugue, sur le milieu familial. Je crois que c'était leur axe de recherche principal, voire exclusif. On est interrogé pendant 7 heures d'affilée. C'est quand même...
Pendant ce temps-là, ils ne faisaient rien d'autre.
Aucune trace du petit garçon. Ses parents vont se battre et obtenir un an plus tard de nouvelles fouilles, comme le montrent ces images à l'époque.
Depuis 48 heures, branle-bas de combat dans le secteur du col de Luens. À la demande du juge instruisant l'affaire, plus de 500 hommes ont entrepris de nouvelles recherches.
4 ans plus tard, soudain, un rebondissement. Georges Laugier, un voisin qui avait même participé aux recherches, devient le suspect numéro 1. L'un de ses amis qui affirmait être présent avec lui au moment de la disparition vient de se rétracter.
Je ne sais pas. À toutes les questions des enquêteurs, la même réponse. Georges Laugier ne veut rien dire. Depuis 3 jours, il a regardé sans réaction une pelleteuse défoncer sa maison.
On se dit, ça y est, enfin, on va savoir ce qui est arrivé à Mathieu. On s'est dit, il va bien craquer, ils vont bien arriver à le faire craquer.
Mais Georges Laugier ne craque pas. La déception du couple est immense.
Pour les parents de Mathieu, ce sera toujours le doute. L'ami de la famille a été acquitté. Trop peu de charges pesaient sur lui. Alors qui a enlevé le garçon de 10 ans au col de Luens, près de Castellane? Le mystère reste entier.
Pour moi, il ne pouvait pas être condamné. Il n'y avait pas de preuves matérielles. Il n'y avait pas de corps, pas d'aveu. En l'état, c'était pas possible de le condamner. À quoi?
En 2022, Georges Laugier est mort. A-t-il emporté des secrets avec lui? Lise et Philippe Holbert en sont convaincus et n'ont pas renoncé à la vérité. Le couple, qui a eu 2 enfants depuis, n'a jamais quitté le village où leur premier fils a disparu.
Ici, on est au cœur de ce qu'il faut chercher. Oui. Et comme tu l'as dit, on est venu ici avec Mathieu et c'est là qu'on est, quoi.
Et puis tous les livres, tous les jeux, on n'avait rien, on n'a rien jeté.
On ne peut pas y toucher. Il ne faut pas l'exposer. Ouais. Mais en même temps, moi, il m'arrive de trouver un objet quelconque. Je ne peux pas le mettre à la poubelle, quoi. Je le mets là. Dans 10 ans, il sera encore là.
Une vie consacrée à comprendre la mort probable de leur fils. Le pôle judiciaire des Cold Case, créé il y a 2 ans pour résoudre les affaires non élucidées, a repris l'enquête et étudie l'hypothèse d'un tueur en série. 41 ans plus tard, le mystère Mathieu Holbert demeure entier.
Nous allons revenir naturellement sur l'affaire Émile, mais quand même, Marlène Baranès, une réaction à ce reportage, à la fois leur vie continue et en même temps, elle s'est totalement arrêtée en 1983.
Elle s'est arrêtée. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure à propos du gel psychique. Hein. C'est-à-dire, nous sommes traumatisés. Et tant que des professionnels ne nous ont pas aidés à dépasser ce qu'on appelle l'absence de l'habilité, hein, notre capacité à réfléchir à plusieurs choses à la fois et à ressentir. Et donc, quand on est choqué, traumatisé, c'est-à-dire au-delà du choc, hein, eh bien, en fait, on est psychiquement sidéré, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la sidération.
C'est donc, ce qu'il dit, je ne jette rien, il a gardé tout en l'état.
Il garde tout en l'état, il ne peut plus avancer. Donc, ils sont là, vous voyez, on les voit figés, entre guillemets, enfin, ils sont dans ils ne pourront pas déménager. Ils vont rester dans leur... Alors, c'est d'autant plus compliqué dans l'affaire Émile, puisqu'on n'a pas de corps, et donc la question de...
Nous avez dit au début de l'émission, pour ceux qui nous viennent de nous rejoindre, qu'un crâne, ça n'est pas un corps, et que ça ne suffit pas pour faire le deuil, hein, pour la famille.
Eh bien, non, parce qu'on ne peut pas avoir de sépulture avec un crâne, et donc c'est extrêmement compliqué sans corps de pouvoir mettre un point final à une histoire aussi douloureuse puisse-t-elle être. La seule différence dans certains cas où on peut faire un deuil, si je puis dire, sans corps, c'est quand on arrive à relier le lieu de la disparition de quelqu'un à quelque chose dont il était fou amoureux. Par exemple, la montagne, la mer, quelqu'un qui a disparu dans la montagne et où on peut projeter quelque chose de nous-mêmes en disant au moins il est là où il aimait, il est parti dans la mer, au moins là, il est là où il voulait être. Et ça, c'est important, ce qui n'est évidemment pas le cas du petit Émile.
Alors, on parlait tout à l'heure de la mise en situation qui a eu lieu 2 jours avant la découverte de ce crâne. Déjà, c'est quoi une mise en situation par rapport à une reconstitution ?
Alors, une reconstitution, c'est un acte d'enquête qui se fait en général quand on a un suspect et quand on a une scène de crime. Et en fait, on replace le suspect sur la scène de crime pour lui faire refaire les gestes qu'il a fait ce jour-là. Évidemment, là, on n'a ni scène de crime, ni suspect. Donc, ce transport sur les lieux, cette remise en situation, elle visait surtout à comparer. Depuis 8 mois, les gendarmes, ils ont auditionné tout un tas de témoins, des proches de la famille, le grand-père, la grand-mère, tous ceux qui étaient sur place ce jour-là. Et ces 17 personnes qui avaient été convoquées, en fait, on souhaitait les remettre à l'endroit où elles prétendaient être ce jour-là pour vérifier que ce qu'elles ont vu ce jour-là, ou ce qu'elles ont en tout cas dit en audition sur procès-verbal, était compatible avec les lieux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir vu Émile à cette heure-là, à cet endroit-là ou pas ? Comment se sont organisées les premières recherches ? Pourquoi on est parti chercher là d'abord et pas à droite, etc. Donc c'était vraiment ça. Ça a été filmé en intégralité, ce qui était aussi une mesure qui est assez rare, en fait.
Et voilà. Ça a servi à quoi ?
Mais en fait, ça servait, encore une fois, à remettre ces 17 témoins sur place et ensuite à faire un travail d'analyse, mais qui est en cours, de dire, voilà, est-ce que ce qu'on nous a dit sur procès verbal il y a 7 mois, c'est compatible avec ce qu'on vient de voir et avec la situation géographique ?
Pardonnez-moi de poser des questions comme ça, mais quand ils font ça, c'est qu'ils ont des arrière-pensées ou ils font ça parce qu'ils n'ont rien ?
Les deux.
Ça valide des cohérences et des incohérences, ça valide des positionnements dans l'espace, et c'est très important de dire, non mais, si vous étiez tous les deux là, vous vous êtes donc vus, vous n'avez pas dit que vous étiez vus, donc vous ne pouviez pas être là, où vous dites que vous êtes, et au moment où vous dites que vous êtes, ah non, l'angle est impossible avec la visibilité que vous annoncez avoir, donc vous ne pouviez pas être là, ou vous ne pouvez pas avoir vu, ou pas vu ce que vous dites avoir vu ou vous n'avez pas vu. Donc ça sert à ça. Et puis il y a un logiciel extrêmement puissant dans la gendarmerie qui est développé depuis plusieurs années, qui maintenant permet d'accélérer la gestion des incohérences. Et donc la mise en situation, qui est un transport de justice au sens purement pénal, ça permet, quand on n'a pas de scène de crime, et quand on n'a pas de cadavre, et quand on n'a pas de suspect, d'accélérer le processus visant à essayer d'isoler des nouvelles pistes, parce que ça ne matche pas.
Grégory Leclerc, il n'y a pas eu de garde à vue depuis le début de cette enquête. Il y a eu des personnes auditionnées, mais pas de garde à vue.
Il n'y a eu aucune garde à vue, c'est vraiment un fait majeur. Vous me direz, dans l'affaire Lina, il n'y a pas eu de garde à vue avant 8 mois hein, non plus. D'ailleurs, il y a eu 3 gardes à vue qui n'ont rien donné, donc vous voyez, ce n'est pas non plus l'élément phare dans une enquête. En fait, au début, le procureur de la République qui officiait s'est un peu privé de ses gardes à vue, parce qu'il est resté dans une enquête de flagrance, il n'avait pas le droit techniquement de faire des gardes à vue, mais des auditions libres. Bon, pendant un moment, ça a été ça, puis après, on a basculé en ouverture d'informations judiciaires qui ont permis ces gardes à vue. Pour autant, il n'y en a pas eu, effectivement. Quoi.
Il y a eu des dalles de béton qui ont été soulevées, cassées. Il y a eu un jeune agriculteur qui a été longuement entendu. Ça, pas de choses significatives.
C'est un processus normal. Après, il ne faut quand même pas oublier quelque chose. Cette affaire, elle est extrêmement médiatique. Si demain, vous mettez quelqu'un en garde à vue dans l'affaire Émile, ouais, médiatiquement et pour la société, vous mettez un coup de projecteur sur quelqu'un dont vous dites qu'il est coupable. Regardez sur Lina, les trois gardes à vue qui étaient des gardes à vue de vérification.
Oui, on va en parler tout à l'heure.
Elles ont été surmédiatisées, alors qu'on savait un petit peu avant que c'était plutôt des gardes à vue pour fermer des portes qu'en ouvrir. Mais la garde à vue, ce n'est pas un gadget et ce n'est pas quelque chose qu'on décide comme ça. Il faut des charges, il faut que ça aboutisse à quelque chose. C'est un fusil à un coup, la garde à vue. Si ça ne marche pas, oui, c'est
ça
terminé.
Ça ne se gâche
après,
hein, pas. Ouais, ouais. Ça ne se gâche pas parce qu'on rattrape pas les heures. On ne recommence pas à zéro, voilà, à la deuxième garde à vue. Mmh. On finit le temps sur lequel on peut agir. Et dans ces affaires-là, c'est 24-48 et pas plus. Donc, on est très prudent sur l'usage immodéré ancien de la garde à vue et aujourd'hui, ouais, très précis et très méthodique.
Un mot sur la famille et sur le grand-père, Christophe Barbier, avec ses révélations, on l'a entendu dans le reportage tout à l'heure, du canard enchaîné qui faisait écho au passé du grand-père qui est décrit comme quelqu'un d'autoritaire, pour le moins.
Oui, mais est-ce que c'est parce qu'on a travaillé il y a longtemps dans un établissement scolaire où il y a eu des affaires de violence avec des plaintes qui n'ont rien donné d'ailleurs, hein, puisqu'il a été entendu à l'époque? Est-ce que parce qu'on est dans une famille qui pratique un catholicisme assez rude, en tout cas assez abouti pour ne pas dire intégriste, on est suspect d'avoir pu commettre un tel fait divers? Oui. C'est aller trop vite en besogne, bien entendu.
Mais c'est très important dans cette affaire-là, ça ajoute à ce huis clos, bien le Haut-Vernay, cette famille qui ne parle pas à la presse et qui choisit de ne pas de parler à la presse et qui s'assume telle qu'elle est dans ses convictions.
La suspicion, ça doit venir du concret. Vous ne pouviez pas être où vous disiez être. Votre alibi n'est pas confirmé. Vous avez un kilométrage sur votre voiture qui ne correspond pas à vos déclarations. Ça justifie des soupçons et une garde à vue. Mais votre grand-père a fait ceci, votre famille pense cela, et la dernière fois vous avez voté un tel père. Ça ne vaut rien dire. Ça ne signifie rien. En revanche, ça nourrit cet immense tribunal qui est l'opinion.
Regardez ce que dit Marie. Vous êtes en train de parler et on voit la citation de Marie, c'est la mère d'Émile, qui dit « Nous étions conscients que la plupart des journalistes ne sont pas en mesure de comprendre le monde catholique. Certains prétendent que nous allons à la messe plusieurs fois par jour. Nous n'avons pas honte d'aimer la messe traditionnelle. »
Voilà, c'est-à-dire que être croyant de manière un peu plus aboutie que d'autres et d'aller à la messe plusieurs fois, tout de suite, ça va nourrir non pas une enquête, ouais, mais des rumeurs sur les mœurs, les comportements qu'il peut y avoir dans cette famille. Et évidemment, ouais, dans des réseaux sociaux qui ne sont tenus à aucune règle, et notamment pas des règles d'accusation infondée ou de diffamation, on va tout de suite aller vers l'ésotérique, voire le satanique. C'est ça aussi qui, dans cette, ouais, affaire, a créé un emballement. D'où d'ailleurs la nécessité de fonctionner parfois en vase clos et de fermer le périmètre, d'interdire le village aux visiteurs, ouais, pour ne pas nourrir cette machine à rumeurs.
Marilyn Barnès, sur cet aspect-là, sur la foi, le week-end pascal, à chaque fois c'est associé à ce qui est du registre de l'intime, à savoir les convictions religieuses de cette famille-là.
Alors bon, elles ont des convictions religieuses très fortes. Bon, oui. Soit. Alors dans ce cas-là, bon, cette famille a perdu son petit garçon, donc la foi, d'une façon générale, va permettre d'aider à supporter l'insupportable, parce que en sortant du réel, de la réalité, donc où là où il nous faut, où on est face à l'insupportable, la croyance va nous permettre de rendre à une force supérieure le choix, le droit de vie et de mort, si je puis dire, toujours pour des bonnes raisons. Et donc du coup, ça permet aux gens et notamment aux croyants de dire bon, ouais, Dieu l'a voulu ainsi, et donc c'est qu'il y a une bonne raison, etc. Donc en général, cette force divine va permettre à la fois une déculpabilisation et un sentiment de non-appartenance, c'est-à-dire ça ne nous appartient plus de, d'accord, savoir pourquoi ou pas notre enfant est décédé ou n'est pas décédé. C'est une forme de déréalisation, hein, et ça sert à ça, la croyance.
Grégory Leclerc, une dernière question sur la famille et ce fait que certaines familles, on le disait tout à l'heure, choisissent de s'adresser aux médias. Là, il y a vraiment une famille qui a fait bloc. On a bien senti d'ailleurs une forme d'animosité, hein, vis-à-vis de la presse.
Oui, parce qu'elle avait un fonctionnement un peu à part, qui n'est pas le fonctionnement de tout le monde. Voilà, pour autant, ça n'en fait pas des criminels. C'est juste une famille qui fonctionne avec ses traditions. Dans le village, c'est ainsi qu'elle fonctionnait, d'ailleurs, un peu en clan. Mais en même temps, ils animaient la messe paroissiale. Tous les enfants jouaient d'un instrument de musique. Enfin, ils étaient parfaitement bien élevés. Donc, vous voyez comme quoi il faut aussi se méfier des cibles qu'on peut coller sur les gens.
Et le village a fait bloc autour de la famille ?
Alors, dire que le village a fait bloc, ce serait un peu peut-être caricatural, parce que la rumeur a fait son travail, et vous savez ce qu'est la rumeur. Elle a vite désigné, pour certains, les grands-parents, pour d'autres suspects possibles. Mais non, on ne peut pas dire que le village ait fait bloc, parce que le village, au contraire, a été pris par la rumeur.
Pris par la rumeur. Juste un mot rapidement, Alain Bauer, pour qu'on entende dans le reportage, la famille a été entendue, la famille est toujours entendue et la famille est suspectée.
Alors, elle n'est pas toujours suspectée, mais elle est toujours entendue parce que c'est un élément essentiel. Dans 90% des cas de disparition, entre 40 000 et plus disparitions, 10 000 disparitions inquiétantes, 1 000
enfants.
Mille enfants. Qu'on ne retrouve pas ou difficilement, dont 500 enlèvements entre parents. Donc, vous voyez, donc évidemment, quand on a 90 ou 95% des cas qui concernent des affaires familiales, on commence par la famille, l'amant ou la maîtresse. On va dire que c'est la famille étendue à la française. Ce sont les éléments qui répondent pour l'essentiel à... Après, on a évidemment les situations de disparition totale où on n'arrive pas à identifier un auteur, où on n'arrive pas à le confondre. Je donnais l'affaire Leroux tout à l'heure. Vous avez une affaire en cours qui est l'affaire Jubilard. Je rappelle, la présomption d'innocence fait que M. Jubilard est suspecté de plein de choses, mais que personne n'a rien réussi à démontrer jusqu'à présent. Et puis, vous avez des disparitions très anciennes qui sont là. La famille Méchineau, 50 ans, disparue en 1972. Les parents, les enfants, le jour de Noël, et rien. Disparu dans l'air. Et alors, tout y est passé, mais il n'y a rien. Donc, personne n'en sait rien. Et ce sont des éléments qui pèsent beaucoup. Vous avez des enfants, vous avez 77, 83. Vous avez le jeune Yves Baird, je crois, qui est le plus
Berth.
Ancien enfant.
Ouais, John Baird, je crois. Il y a John Baird aussi qui a disparu.
Et qui est 77. Alors, donc, ce sont des...
Eh bien, il y en a une autre dont on va parler.
L'affaire McCann.
Oui.
Personne n'a jamais retrouvé la jeune Maddy.
La jeune Maddy. Alors, on va parler, si vous le voulez bien, Estelle Mouzin.
Estelle Mouzin.
Alors, c'est l'autre mystère qui tient la France en haleine, Lina. Lina, 15 ans, introuvable comme volatilisée depuis 6 mois. La semaine dernière, 3 personnes, on l'a dit tout à l'heure, ont été placées en garde à vue, mais finalement libérées 3 mois avant la disparition. On a appris aussi que Lina avait porté plainte pour viol. Léo Seux et Benoît Thébault.
Dans la vallée de la Bruche, sa disparition reste aujourd'hui un mystère. Lina, l'adolescente de 15 ans, introuvable depuis près de 6 mois. Ultime rebondissement, la garde à vue de 3 personnes en début de semaine dernière. Le parquet souhaite
explorer toutes les pistes utiles à la manifestation de la vérité.
Mais ces gardes à vue ne donneront rien. Quelques jours plus tôt, la mère de Lina lançait un appel à l'aide.
On est 6 mois plus tard maintenant. Si quelqu'un se souvient de quoi que ce soit, a oublié de dire quelque chose, un détail, eh bien, il faut le dire. Il n'est jamais trop tard.
Dès les premiers jours qui suivent la disparition de Lina, d'importants moyens sont mobilisés. Des battues sont organisées pour ratisser une zone de 10 km dans ce secteur escarpé du massif des Vosges.
Tout le monde est perturbé par ce qui arrive. Et voilà, la motivation est là.
J'ai une fille aussi de 15 ans, donc ça aurait pu aussi arriver à ma fille aussi.
Sa mère s'adresse aux journalistes.
Je veux retrouver ma fille, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est difficile, C'est une torture de plus avoir son enfant près de soi.
Mais alors, que s'est-il passé ? Le 23 septembre, Lina part de chez elle à pied, direction la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Il est 11h. Un trajet de 3 km pour prendre le train de 12h03 et rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg. À 11h20, elle envoie un dernier message. 2 minutes plus tard, son téléphone cesse de borner. Après vérification, Lina n'est jamais montée dans ce train.
Deux témoins ont vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30. Elle cheminait à pied sur son itinéraire. Aucune trace sur la chaussée ou le bas-côté n'a été observée à cette heure, évoquant la survenance d'un accident de la route dont elle aurait été victime.
Un des témoins assure ce jour-là avoir vu la jeune fille dans la voiture d'un homme.
J'ai vu Lina, elle a fait un coucou en passant. Et voilà, dans une voiture foncée, elle n'a pas l'air inquiète, elle n'a pas fait de signe de détresse ni quoi que ce soit. Je n'ai pas pu voir le conducteur, j'ai vu le dessous du conducteur, donc avec une légère barbiche. Maintenant, est-ce que c'était une fausse ou une vraie, ça, je ne sais pas.
Une adolescente de la commune va également révéler aux gendarmes avoir été approchée par un individu au volant d'une voiture grise. Les enquêteurs vont suivre cette piste. Des perquisitions sont menées notamment chez un professeur de musique. Le passé de Lina va également ressurgir. En juin 2022, la jeune fille dépose plainte pour viol en réunion. D'abord classée sans suite, la procédure va être relancée après sa disparition. La mère de Lina et son avocat exigent des informations.
Je demande à ce que Mme Groll, conformément à ce qui a été indiqué dans la presse, soit au courant de la teneur de la décision du parquet de Saverne et que des explications puissent être apportées.
Le 20 avril prochain, la mère de Lina organise un concert dans sa commune. Un moment de soutien et de solidarité.
Cette question, elle est dure à poser après ce reportage. Question de Robin. Lina pourra-t-elle être encore vivante ?
Tant qu'on n'a pas trouvé son corps, l'option est, elle est vivante. Mmh. Et d'ailleurs, les parents ont
bien
besoin
sûr
de croire qu'elle est vivante. Et comme je l'ai indiqué, dans les disparitions, il arrive... On a vu un jeune garçon retrouvé 13 ans plus tard, je crois, un jeune garçon irlandais ou britannique, je ne sais plus, enlevé, alors là, dans un univers familial, mais retrouvé parce qu'il a fui et qu'il
familial
a pris...
Familial et sectaire.
Ouais.
Familial et sectaire, qu'il a pris sur lui-même. Donc, il faut toujours être très prudent. Pas de corps, pas d'indication. On est dans la disparition sans indication d'enlèvement, de bris de vie, de sang. Enfin, quand il n'y a aucune trace d'aucune sorte, l'option vivante est toujours l'option qui doit être conservée.
Et quand il n'y a aucune trace, il y a les témoignages. Il n'y a que les témoignages, Damien Delceni, que ce soit dans l'affaire d'Émile ou dans l'affaire de Lina. Dans l'affaire d'Émile, il y en a un qui le voit monter, l'autre qui le voit descendre. L'affaire de Lina, il y en a qui dit « je l'ai vu dans une voiture sombre ». Mais tout ça repose sur parfois la conviction que certains sortent de l'humain.
Oui, sortent de l'humain. Donc l'humain est forcément faillible. Il n'est pas forcément de mauvaise foi.
Non, bien sûr.
Va-t-on avoir vu quelque chose qu'il n'a pas vu ? Et c'est l'intérêt de ce qui a été fait pour Émile Sterre, la mise en situation. Est-ce que c'est possible ou pas d'avoir vu ça à cette heure-là ? Est-ce que deux personnes peuvent avoir vu des choses différentes ? Il y en a un qui ment, il y en a un qui ment pas. Et pour Lina, les gardes à vue qui ont été faites il y a une dizaine de jours, c'était en fait des personnes qui avaient témoigné à l'époque, qui ont été auditionnées et dont les gendarmes se sont rendus compte que ça ne pouvait pas marcher. C'est-à-dire que c'était un couple qui avait vu Lina à une heure où il ne pouvait pas l'avoir vue. Alors, ça ne veut pas dire que c'est suspect. Pourquoi il y a eu une garde à vue ? Il faut juste l'expliquer. Oui. En 10 secondes, on aurait pu les entendre en audition libre parce qu'ils n'étaient pas suspects de grand-chose. Mais simplement, l'audition libre, elle est très limitée dans le temps. Elle dure, je crois, 3-4 heures, si mes souvenirs sont bons, 4 heures. Et 4 heures, ça ne suffisait pas pour les entendre, vérifier un certain nombre de choses. Donc, il y a une décision de garde à vue, mais qui était plus une garde à vue de vérification qu'autre chose. C'était pas, mais tout de suite, quand on dit garde à vue, effectivement, on se dit, oulala, c'est des suspects. Donc, le témoignage humain, il est faillible, il est de mauvaise foi ou pas.
Donc, en fait, ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas vu ce qu'ils avaient dit d'avoir vu.
Bon, en tout cas, c'était pas possible. Et puis surtout, il y a une autre chose, je finis juste là-dessus. Des affaires qui sont très médiatisées, comme celle d'Émile, comme celle de Lina, il y a toujours ce risque que les gens qui ont été témoins de quelque chose, ils vont regarder la télé, ils vont lire les journaux, ils vont se refabriquer une scène dont ils ont été des vrais témoins, mais ils vont se refabriquer une scène avec ce qu'ils vont entendre et voir, et ça peut parfois modifier un peu la réalité.
En deux secondes, c'est très juste. C'est la question, ce qu'on appelle la question des représentations, c'est-à-dire en fonction de notre vécu et de notre capacité à percevoir les choses, en fait, nous les percevons tous avec une grille de lecture. Donc, ils ne sont pas forcément de mauvaise foi, etc., mais leur grille de lecture, parce que c'est des gens gens, par exemple, qui sont soit très visuels, soit des gens qui sont très anxieux, soit des gens qui sont au contraire, qui se prennent pour des grands détectives. Donc, en fait, au moment où on demande s'il y a eu des témoins, eh bien, la représentation de chacun va faire qu'on va aller raconter quelque chose qui est vrai pour la personne qui le raconte. Mmh. Mais c'est tout à fait juste que, en fait, il y a autant de témoins que de... alors qu'il y a une réalité.
Vous me disiez que des jugements ont été cassés aux États-Unis sur des condamnés à mort.
Oui, il y a une étude de mes collègues américains qui ont regardé dans les jugements de peine de mort qui ont été cassés pour erreur judiciaire majeure reconnue, ADN, etc. Les témoins étaient responsables, dans les deux tiers des cas, des fausses décisions et des erreurs judiciaires parce qu'ils avaient vu quelque chose qu'ils n'ont pas vu, qu'ils ont cru avoir vu et qu'ils ont malheureusement poussé à la condamnation alors même que tous les éléments techniques et factuels indiquaient que ça n'était pas.
Allez, nous revenons maintenant à vos questions. Beaucoup de questions naturellement ce soir. Béatrice en Charente-Maritime, pourquoi la mise en situation des habitants du Auvernais n'a-t-elle pas eu lieu plus tôt? Avec vous, Grégory Leclerc, sur cette question.
Alors je dirais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu lieu plus tard finalement parce que effectivement elle a été la mise en situation, elle a été faite quasiment à la sortie de l'hiver. On aurait pu imaginer une mise en situation avec les mêmes conditions au mois de juillet, le 8 juillet, ça s'est déroulé le 8 juillet avec la même hauteur d'herbe, la même lumière. Si elle a été faite à ce moment-là, je pense que les enquêteurs avaient peut-être une idée derrière la tête et qu'ils ont voulu valider ou infirmer des hypothèses.
Question de Daniel dans les Hautes-Pyrénées. Le fait que la randonneuse ait manipulé le crâne peut-il compromettre l'analyse scientifique, Alain Boer?
Alors, il faut toujours, quand on trouve quoi que ce soit, on ne le touche pas et on appelle les gendarmes plutôt que de leur amener quoi que ce soit. Mais dans ce cas précis, d'après ce que m'ont indiqué les experts en criminalistique, ça ne change pas grand-chose à la nature de ce qu'on pouvait trouver sur le crâne. Et comme elle a indiqué de manière assez précise le lieu de découverte, on va dire que... voilà. Mais la recommandation générale, vous trouvez quelque chose, ne le touchez pas, ne le bougez pas et essayez de joindre les gendarmes. Il semble qu'elle avait un petit problème de liaison téléphonique, de mauvaise couverture, qui semble être l'argument pour lequel... Voilà, mais on va la remercier surtout de l'avoir
trouvé. La police enquête-t-elle systématiquement sur les personnes participant aux battues, Damien Delceni?
Alors, pas tous, parce que vous avez vu que sur les battues, il y a un peu de monde, mais évidemment que dans... Vous savez, les policiers et les gendarmes, ils assistent souvent aux battues et aux obsèques quand on trouve un corps et quand on... Parce que, voilà, il y a toujours, lors de ces petites cérémonies, la possibilité que l'auteur vienne, par perversité, assister à tout ça. On a plein d'exemples, hein. Jonathan Daval a participé à de nombreuses battues pour retrouver sa femme qu'il avait lui-même tuée. Ça fait partie effectivement de la sphère des gens qu'on va surveiller. Mais après, on ne peut pas entendre 350 personnes comme ça.
Cette question, pourquoi les médias insistent-ils autant sur le fait que cette famille est très catholique, Christophe Barbier?
D'abord parce que c'est devenu rare, une famille aussi catholique. Et puis parce que quand une disparition se passe dans l'univers familial, les parents, le grand-père, une sorte de phalanstère, cette famille, tout de suite, on va rechercher ce qui a pu se passer entre eux. On est aussi marqué par la mémoire d'autres faits divers où l'élément familial a eu une importance. L'affaire Grégory avec des parents, un oncle, de la jalousie, des corbeaux, l'univers familial à la Simenon, si j'ose dire, semblait le bon cercle. Là, la dimension spirituelle est aussi grevée par le fait qu'il y a toutes ces dérives sectaires où on a eu beaucoup de cas de disparition ou de meurtre ou de suicide collectif marqués par la dimension sectaire. La dernière en date étant Xavier Dupont de Ligonnès, qui est aussi un fait divers qui passionne les foules. Et il y a une dimension d'engagement spirituel radical dans cette famille.
En quoi consiste le statut de témoin assisté?
C'est un statut qui a été créé, qui est hybride entre le simple témoin et le mis en examen. C'est-à-dire que c'est quelqu'un contre lequel on a des suspicions, mais pas assez d'éléments pour le mettre en examen.
Ce village et la famille d'Émile ont-ils livré tous leurs secrets, à votre avis, Grégory Leclerc?
À l'évidence, non, parce qu'on n'a pas les réponses à toutes nos interrogations. C'est bien pour ça qu'on en débat aujourd'hui. Non, évidemment, le village n'a pas livré tous ses secrets. Il y en a encore beaucoup. Et je pense peut-être que l'enquête là, judiciaire va permettre d'apporter pas mal de réponses.
En quoi cette découverte va-t-elle modifier ou orienter le travail des enquêteurs?
Cercle géographique restreint, concentration des moyens au lieu d'étalement des moyens, et puis désormais validation et invalidation de tout ce qui a été construit depuis. Ce n'est pas une nouvelle enquête, c'est la poursuite de l'enquête et on se sert de tout ce qui a été mis de côté, plus de la modélisation désormais de la scène de crime, et je pense à la scène de découverte,
crime ou accident,
mais c'est surtout, ça va être l'élément majeur, c'est la découverte du reste du corps qui est vraiment la priorité majeure, et c'est celle qui va éclairer j'espère, la suite de cette enquête.
Merci à vous tous. On se retrouve demain en direct dès 17h30. Belle soirée sur France 5. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.